Laudetur Jesus Christus.
Violente éruption volcanique aux Canaries, 50 ans que le Cum Brevieira était en sommeil. Les dégâts matériels sont importants, 5000 personnes ont été évacuées. Près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, la France demande pardon aux Harkis, ces auxiliaires musulmans qui avaient aidé l'armée française, mais qui ont ensuite été accusés de trahison et de collaboration dans leur propre pays. Et puis en fin de journal, retour sur les élections fédérales anticipées au Canada. Le Premier ministre Justin Trudeau fait un pari risqué pour obtenir une majorité. Les Canadiens votent aujourd'hui.
Radio Vatican, le journal, Marine Henriot.
Bonsoir. L'archipel paradisiaque des Canaries, touché par une violente éruption toujours en cours depuis plus de 24 heures. Les explosions du volcan Cum Brevieira ont détruit une centaine de maisons. 5000 personnes ont dû être évacuées. Cette éruption, la première sur l'île de Palma depuis 50 ans, n'a pour l'instant pas fait de victimes humaines. Mais les dégâts matériels sont lourds. Les précisions avec Louis Marsens.
La coulée de lave a déjà détruit plus de 120 maisons, des milliers d'hectares de champs et de plantations sont anéantis, mais pour le moment, aucune victime n'est à déplorer. 5500 personnes ont été évacuées depuis que l'éruption du volcan a commencé hier après-midi. Ce volcan, Cum Brevieira, continue de cracher des coulées de lave. Virginie Duvert est belge, elle vit dans l'île depuis une vingtaine d'années.
C'est super impressionnant. Ça fait peur, surtout que c'est dans une zone quand même peuplée. Il y a quand même déjà quelques maisons affectées. Je pense que tout le monde est un peu stressé. Donc, je sais pas encore, on sait pas combien de temps ça va durer. Ça peut durer plus ou moins un mois avant que ça termine la coulée de lave. Ça dépend en quelle direction ça prend.
Il n'y a pas de victimes à déplorer. On a l'impression que les îles Canaries et l'île de La Palma étaient préparées à l'éruption de ce volcan.
Oui, je pense que le protocole s'est très bien passé. Ils ont bien réagi. Ils ont aussi évacué les zones de la côte. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils ont bien réagi.
L'inquiétude est palpable, mais dans l'ensemble, la population garde son calme et son sang-froid, à l'exception de ceux, malheureusement, qui sont en train de perdre leur maison. L'armée espagnole est sur place. La coulée de lave devrait se jeter dans la mer d'ici 2 heures. Les experts prévoient qu'il y aura à ce moment-là des explosions et l'émission de nouveaux gaz toxiques. Barcelone, Louis Marsens pour Radio Vatican.
C'est demain que s'ouvre l'Assemblée générale des Nations Unies à New York. Les dirigeants mondiaux devraient notamment revenir sur la crise sanitaire et sur la crise climatique. Mais les tensions entre l'Union européenne et les États-Unis s'invitent à l'Assemblée générale, tandis que la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Australie ont signé ensemble un pacte de sécurité, AUKUS, sans même en informer l'Union européenne. Les 27 organisent dès ce soir une réunion en marge pour discuter de ce pacte. Les États-Unis qui lâchent un peu de lest pour les voyageurs internationaux, les voyageurs vaccinés. À partir de début novembre, ils pourront entrer sur le territoire américain. À cause de la pandémie, les voyageurs en provenance de l'étranger étaient interdits de se rendre aux États-Unis, et ce depuis mars 2020. Le Parlement libanais, victime d'une coupure de courant ce lundi, tandis qu'il débattait sur le vote de confiance au nouveau gouvernement. L'incident, dû à la pénurie de mazout qui touche le pays entier, a donc retardé le débat. Le Premier ministre Najib Mikati, par crainte d'une nouvelle coupure, a dû accélérer son discours. La confiance au gouvernement devrait a priori être votée dans la soirée. À Paris, le président français Emmanuel Macron a reçu ce matin 300 Harkis ou descendants de Harkis, ces auxiliaires musulmans ayant combattu avec l'armée française durant la guerre d'Algérie. Près de 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, le chef de l'État français a demandé pardon pour les souffrances que les Harkis et leurs familles ont subies après le départ de la France d'Algérie. Une nouvelle étape historique dans la reconnaissance du drame des Harkis. Les précisions avec Marie-Christine Bonzon.
Emmanuel Macron a estimé ce matin qu'il n'est pas de son rôle en tant que président de la République de juger ses prédécesseurs. Mais il a affirmé, et je cite, que la France a manqué à ses devoirs envers les Harkis, leurs femmes et leurs enfants. Au nom de la France, je dis que la République a contracté une dette à l'égard des Harkis et je demande pardon, a déclaré le chef de l'État, avant d'ajouter que le temps des non-dits et du déni, qui entoure encore des aspects très douloureux de la guerre d'Algérie, est révolu. Emblématique de cette douleur et de ce déni accumulé, un homme et une femme Harkis ont interrompu M. Macron pour exprimer leur colère et leur souffrance. Reprenant son discours, M. Macron a annoncé un projet de loi qui vise à créer une commission nationale chargée de superviser le recueil de témoignages sur la tragédie des Harkis, ainsi que le paiement de réparations. Face à l'usage répandu du mot « harki » comme une insulte au sein de la communauté immigrée, M. Macron a souligné que le mot « harki » signifie « celui qui avance ». Quand on insulte un harki, on insulte la France, a poursuivi le président qui, par ailleurs, déplore que le gouvernement en place à Alger n'autorise pas les harkis à revenir en Algérie pour se recueillir sur les tombes de leurs ancêtres. Marie-Christine Bonzon pour Radio Vatican.
La conférence internationale sur la protection des mineurs s'est ouverte hier à Varsovie en Pologne. Elle se tient jusqu'à mercredi, réunit des évêques et des spécialistes de la protection de l'enfance. Dans un message adressé samedi aux participants, le pape François avait demandé la prise de mesures concrètes pour protéger les mineurs. Les prises de parole de la conférence de Varsovie sont à retrouver en détail sur notre site internet. On reste dans l'actualité vaticane. Le deuxième groupe d'évêques français a commencé ce matin sa visite ad limina à Rome. Il s'agit des évêques des provinces ecclésiastiques de la région de Paris, Lyon, Clermont et du diocèse aux armées. Les Canadiens votent aujourd'hui pour des élections législatives anticipées et le suspense reste total. Ces derniers jours, les sondages donnaient les libéraux et les conservateurs dans un moussoir de poche. En déclenchant ces élections anticipées à la mi-août, le Premier ministre Justin Trudeau espérait ainsi retrouver sa majorité à la Chambre des communes, une majorité qu'il avait perdue lors des élections de 2019. Mais aujourd'hui, ce pari s'avère risqué et si aucun des grands partis qui s'alternent au pouvoir depuis 1997 ne décroche la majorité, il faudra une nouvelle fois composer un gouvernement minoritaire. Félix Mathieu est professeur en sciences politiques à l'université de Winnipeg. Il revient sur les temporalités de ces élections.
Justin Trudeau, qui a vu dans les sondages qu'il était possible pour lui de s'acquérir une majorité, de contrôler une majorité du Parlement si jamais il déclenchait des élections en ce moment. Et il a donc saisi cette occasion pour améliorer son sort, pour en venir à retrouver la majorité parlementaire qu'il avait acquise en 2015. Et donc ici, les élections ont été déclenchées, non pas parce qu'il y avait un blocage fondamental au Parlement où on n'était plus en mesure de gouverner, mais plutôt parce que le gouvernement en place, qui était minoritaire, cherchait à avoir les coups des franches et à ne plus devoir négocier avec l'opposition pour faire avancer son agenda législatif.
Et sur le fond, sur le front des réformes, quel est son bilan?
Son bilan est mitigé. Pour ce qui est de son premier mandat de 2015 à 2019, il avait fait de grandes annonces, notamment en termes de réconciliation avec les peuples autochtones. Eh bien, ses adversaires ne manquent pas aujourd'hui de lui rappeler les ratés ou les demi-mesures en la matière. Et en ce qui concerne 2019-2021, ici, pour faire adopter quelques projets de loi que ce soit, il devait nécessairement compter sur l'appui soit du NPD ou encore du Bloc québécois pour faire adopter ces projets, puisqu'il ne disposait pas lui-même de la majorité des députés en Chambre, ce qui fait en sorte que son bilan des deux dernières années, les partis de l'opposition peuvent s'en revendiquer à juste titre, et ce qui est une arme à double tranchant ici pour Justin Trudeau, mais également pour les partis de l'opposition.
Qu'en est-il aussi de ce modèle inclusif canadien prôné par Justin Trudeau? Comment est-ce reçu par la population? Est-ce que c'est un modèle arrivé à bout de souffle? Comment se positionner par rapport à ça?
La politique du multiculturalisme au Canada demeure une politique très populaire. C'est au Québec que c'est plus difficile puisque le Québec a toujours refusé d'adhérer au multiculturalisme. Le Québec a développé son propre modèle d'intégration, un modèle qui est également pluraliste, inclusif, qui s'appelle l'interculturalisme. Et donc, lorsqu'on insiste trop sur la scène fédérale, sur la valeur du multiculturalisme, qui au Québec est perçu comme un mécanisme qui vient diluer la saillance de ce qui caractérise la spécificité québécoise, il vient noyer un peu cette différence dans la mosaïque multiculturelle canadienne. Eh bien, au Québec, on peut perdre des points dans les intentions de vote si on insiste trop fortement sur cette dimension. Mais le modèle inclusif, de manière générale, demeure quelque chose de très positif, de perçu très positivement au Canada.
Voilà des propos recueillis par Delphine Allaire. Félix Mathieu, spécialiste de la politique canadienne, était ce soir notre invité. Le prochain retour de l'information, c'est demain matin à 8h30. Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne soirée.